profitant de notre faiblesse, Donald Trump avance ses pions dans la partie de Monopoly géante engagée avec la Chine et la Russie. Il veut acheter le Groenland, dont il a un besoin vital, dit-il, pour son projet de bouclier antimissile. Riposte française, nous allons ouvrir un consulat au Groenland le 6 février prochain. Pas sûr que cela fasse très peur aux Américains, mais au moins, cela permet au président Macron de continuer à détourner le regard et faire comme si les problèmes des Français n'existaient pas. On en débat ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. La France est totalement opposée au Mercosur. Vos motions de censure sont une division. Voilà le message adressé par Sébastien Lecornu aux oppositions à l'Assemblée nationale, aux membres de la France insoumise et du Rassemblement national. Plus précisément, les deux partis avaient en effet déposé deux motions de censure distinctes pour dénoncer l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Celle de LFI a d'ores et déjà été rejetée. Place maintenant à celle du RN. Les agriculteurs ont peut-être quitté les abords de l'Assemblée nationale, mais la colère gronde toujours à Paris. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont introduits à l'intérieur d'une annexe du ministère de l'Agriculture, la filière agricole française, qui continue de dénoncer cet accord de libre-échange que l'UE doit signer samedi au Paraguay. Mercredi prochain, le Parlement européen se prononcera sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'UE. Environ 150 eurodéputés ont initié cette démarche. Cette alerte de la Banque de France, le nombre de dossiers de surendettement a bondi de 10% en 2025. Le gouverneur François Villeroy de Gaillot était auditionné en commission des finances au Sénat ce mardi. Un nombre de dossiers tellement important que l'organisme a dû mobiliser des effectifs supplémentaires pour les traiter. Pour le banquier central, il s'agit d'un sujet d'attention selon ses mots, un niveau qui reste toutefois inférieur au pic enregistré en 2014 où plus de 800 000 foyers français étaient endettés. Au deuxième jour du procès dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés FN, peut-être une première victoire pour Marine Le Pen. L'avocat général a reconnu que certains de ces contrats pourtant traités en première instance devaient être écartés de ce nouveau jugement. Le tribunal correctionnel de Paris qui avait condamné Marine Le Pen aurait, selon l'accusation, surestimé les charges dont il était saisi. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision sur ce point précis jeudi matin. À l'international, la répression en Iran a fait au moins 3428 morts et plus de 10 000 arrestations, selon un dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights. À l'international, la pression diplomatique s'accentue et l'Iran répond notamment aux États-Unis. Le pays s'est dit capable de riposter à d'éventuelles frappes américaines, selon un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei. Ce dernier a rappelé les frappes inédites menées en juin par la République islamique sur la base américaine au Qatar. Et puis ce soir dans Punchline, vous recevez Laurence Jean-Pierre Raffarin. Beaucoup de thématiques à aborder avec l'ancien Premier ministre. C'est à suivre à partir de 18h40 sur CNews.
Merci beaucoup, mon cher Adrien Fontenot, pour ce rappel de cette venue de Jean-Pierre Raffarin. Je salue nos invités. André Valigny est avec nous. Bonsoir, Rachel Kahn.
Bonsoir, Laurence.
Gauthier Lebret. Bonsoir, mon cher Gauthier. On a l'immense plaisir de recevoir Vincent Trémollet-Villers. Bonsoir, mon cher Vincent.
Bonsoir, Laurence.
Pour évoquer tout à l'heure les 200 ans du Figaro, ce magnifique journal que nous avons fêté dès hier et qui va être fêté tout au long de la semaine.
Là, on est installé au Grand Palais pour 3 jours.
Ouais. Exactement. Et nos amis d'Europe 1, on a délocalisé ce matin notre antenne.
On a fait la matinale d'Europe 1 ce matin.
Et c'était formidable, et voilà, avec Dimitri Pavlenko.
Des longues files devant le Grand Palais.
C'est vrai ?
On attend 50 000 personnes sur les 3 jours.
Bravo au Figaro, une belle bannière, la liberté d'expression. On aime ça.
On cousine avec vous, CNews et Europe 1, justement dans cette défense de la liberté d'expression, de la liberté de penser, puis la liberté de détail aussi, un certain nombre de plaisirs de l'existence qui sont la caractéristique du Figaro depuis les 2 siècles. L'art de vivre, le tourisme,
la culture.
Et voilà.
Sans parler, sans oublier la musique. Geoffroy Lejeune est avec nous. Bonsoir, Geoffroy et Jean-Michel Salvatore. On va évoquer dans un instant la situation internationale, les menaces qui pèsent sur le Groenland, ce qui se passe en Iran. Mais d'abord, cette action coup de poing de certains agriculteurs actuellement dans une annexe du ministère de l'Agriculture. On va rejoindre sur place Vincent Fahandez et Laurent Sélarié. Bonsoir à tous les deux. Il y a une cinquantaine d'agriculteurs qui sont entrés dans un bâtiment officiel. C'est bien ça, expliquez-nous.
Oui, bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Effectivement, 53 agriculteurs exactement sont effectivement entrés dans l'annexe du ministère de l'Agriculture. Ils sont entrés dans la cour de ce bâtiment. Ils ont ensuite été exfiltrés. Et depuis maintenant un peu plus d'une heure et demie, aux alentours de 16h30, ils sont rentrés. Ça fait une heure et demie désormais que cette action est en cours. Ils ont été exfiltrés, sont devant désormais, devant le bâtiment, l'annexe du ministère de l'Agriculture, sous un très gros grand dispositif de sécurité, de police. Hein. Toutes les rues aux alentours sont complètement barricadées par les forces de police. Personne ne rentre ici devant cette annexe du ministère de l'Agriculture. Personne à part certains députés, beaucoup de députés de gauche notamment, qui sont venus au contact des agriculteurs. On a vu Sandrine Rousseau ou encore Éric Coquerel. Enfin, dernière information, ce sont effectivement des agriculteurs, notamment de la Confédération Paysanne, le syndicat agricole, qui sont venus eh bien, en soutien à cette action ici au ministère.
Merci Vincent Fernandez, Laurent Sélarié sur place devant l'annexe du ministère de l'Agriculture. Gauthier Lebray, on voit qu'on n'en a pas fini avec la colère des agriculteurs, qu'elle se manifeste, qu'elle va continuer à se manifester. De toute façon, le traité du Mercosur, ça y est, ils l'ont acté, il sera signé. Mais la vraie colère des paysans, elle est toujours là. Et elle est très présente dans tout le pays.
Et elle n'est pas prête, effectivement, de se tarir. Quand on voit Sébastien Lecornu qui dit « Vos motions de censure à la France
on va l'écouter dans un instant.
Et au RN sont des motions de division, car la France est farouchement opposée au Mercosur. La belle affaire, la France est opposée au Mercosur. La France va subir le Mercosur. Vous avez toute l'impuissance française résumée dans cette affaire. On est contre un traité, mais il va s'appliquer à nous. Et sur ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, qui est un symbole supplémentaire de la colère paysanne, de la colère agricole. Savoir que Sandrine Rousseau, qui était jusqu'ici plutôt silencieuse, plutôt discrète, vient tenter de récupérer le mouvement. La même femme...
Avec la Confédération Paysanne qui est très marquée à gauche.
Alors, qui est marquée à gauche, la Confédération Paysanne qui s'est quand même alliée à la coordination rurale ces derniers jours. Mmh. Donc on voyait gauche et droite, si on dit cela à grands traits, coordination rurale plutôt à droite, que Confédération Paysanne, comme vous l'avez dit, marquée à gauche, se réunir. Donc c'était transpartisan, avec des députés de la France Insoumise qui ont logé des agriculteurs, et, qui ont fait loger des agriculteurs, parfois de la coordination rurale aussi. Donc on voyait bien que c'était transpartisan. Bon, les écolos qui sont allés à Sainte-Soline, où on a saboté les méga-bassines qui servent aux agriculteurs. Les écolos qui ont été à Sainte-Soline, où les gendarmes ont subi l'enfer avec des cocktails Molotov, j'en passe, c'est des meilleurs. Que Sandrine Rousseau, qui est en guerre contre la viande, en guerre contre le barbecue, qui est un symbole de virilisme, etc., bref, en guerre contre le monde paysan, aille tenter de récupérer le mouvement, franchement, ça manque pas de sel. Parce que honnêtement, elle fait tout justement contre les agriculteurs, et elle avait d'ailleurs des propos très durs la semaine dernière contre les agriculteurs après ce qui s'est passé autour de Yael Braun-Pivet, alors que Yael Braun-Pivet elle-même avait tenté tout de suite de calmer le jeu, même si elle avait été malmenée, et ça ne se fait pas évidemment devant l'Assemblée nationale.
On va écouter Sébastien Lecornu, il a répondu. Alors la deuxième motion de censure à l'instant du RN a été rejetée, parce qu'il y avait beaucoup moins de votes pour cette motion que celle de LFI, qui a failli passer. On va écouter Sébastien Lecornu, qui justement s'en est pris aux oppositions RN-LFI, écoutez-le.
Au fond, on n'a pas besoin de compétiteurs, on vous a déjà. On a ces tentatives de sabotage interne en permanence et vous agissez, mesdames et messieurs les députés, tels des tireurs couchés en tirant dans le dos de l'exécutif au moment même où nous devons affronter justement des dérèglements internationaux. Donc, c'est votre droit le plus légitime de déposer cette motion de censure. C'est une démocratie et nous le respectons. Néanmoins, vous devez vous aussi prendre vos responsabilités et voir que en ce moment même, déposer des motions de censure, interroger la stabilité du pays, ralentir encore davantage les procédures budgétaires, tout cela a un impact et malheureusement, il sera payé par le peuple français.
Vincent Trémolin-Villers, qu'est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, les tireurs couchés du RN et LFI, Sébastien Cornu?
Ce qu'on comprend surtout, c'est que je ne crois pas qu'il s'adresse au RN et à LFI. Là, il s'adresse au PS et à LR en vue de ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire l'utilisation des ordonnances par l'exécutif pour faire passer le budget. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs, s'il y a un 49-3, il peut y avoir une motion de censure et le Premier ministre peut être censuré et il peut ne pas y avoir de budget pour la France. S'il y a les ordonnances, il y a un budget pour la France, et si le Premier ministre est censuré et on change de Premier ministre.
D'accord.
Donc, Sébastien Lecornu installe une dramaturgie autour de l'idée de motion de censure pour dire, participer à toute motion de censure, c'est participer aux forces du désordre qu'il définit. C'est ainsi qu'il définit le RN et LFI. À mon avis, c'est ça qu'il a dans la tête.
Mais la sémantique tireur couché est quand même sur un registre militaire.
Une dramaturgie pour un épisode aujourd'hui dont on sait qu'il n'aboutira pas. Donc
évidemment.
On sait que ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir. Donc,
pareil pour celle de la semaine prochaine.
La difficulté qui qui se présente devant lui, c'est la motion de censure, si jamais les ordonnances sont activées, parce que là, le PS peut la voter, et là, il y aura un budget, il n'y aura probablement pas de dissolution et un nouveau Premier ministre, mais il n'y aura plus de Sébastien Lecornu à Matignon. Donc je crois que c'est à l'aune de cette possibilité qu'il faut analyser beaucoup de ces déclarations.
Écoutons Mathilde Panot, qui a réagi au rejet de cette motion de censure, et les filles.
Nous sommes fiers d'avoir fait entendre aussi dans cet hémicycle une autre voix de la France que celle d'Emmanuel Macron qui se couche devant Donald Trump et qui refuse de défendre le droit international. Les Insoumis, évidemment, continueront le combat jusqu'au bout contre le Mercosur aux côtés des agriculteurs qui se mobilisent partout dans le pays. Et nous le continuerons notamment le 21 janvier, puisque le 21 janvier sera examinée la résolution déposée par les Insoumis au niveau européen pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Si c'est le Parlement européen qui décide par son vote le 21 janvier de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, alors l'accord avec le Mercosur serait suspendu, serait donc arrêté, et ce peut-être pour plusieurs années, ce qui évidemment représente un espoir pour continuer la lutte. Et ceux qui ont refusé de faire tomber M. Lecornu aujourd'hui portent une responsabilité immense et ils devront en répondre devant chacun et chacune.
C'est de la science-fiction, Jean-Michel Salvatore, le scénario que t'écris Mathilde Panot ou pas ?
Je suis pas sûr que ce soit le scénario le plus le
probable.
Plus probable.
Okay.
Elle continue à faire de la politique hein, et elle voit qu'il faut continuer à attaquer le gouvernement au travers du Mercosur. Bon, je pense qu'elle prend un peu ses désirs pour des réalités.
Non, Geoffroy.
Écoutez, c'est jamais très agréable d'écouter Mathilde Panot éructer, entourer tous ses amis, etc. Mais moi, j'ai pas été spécialement convaincu non plus par Sébastien Lecornu. J'ai l'impression qu'il a renoué avec un discours qu'on a beaucoup entendu, je dirais, dans les 18 premiers mois ou les deux premières années du quinquennat, d'accord, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, consistant à vous expliquer que le bon sens, la rationalité conduisent évidemment à une seule option, qui est, comme disaient les Anglais, vous savez, there is no alternative, Tina. Il y a pas d'alternative, il y a qu'une seule politique à mener, et si vous opposez à ça, c'est que vous sortez quelque part d'une forme de rationalité et qu'on vous a perdu. Aujourd'hui, cette espèce de dramaturgie, comme disait Vincent, mais peut-être aussi de chantage, je pense, est assez malsain et je pense que ça a beaucoup plombé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et puis après la suite en a découlé. Le fait de faire croire qu'il n'y a pas d'autre option possible politique,
sinon c'est le chaos.
Vous annihilez le débat politique et donc vous abîmez en réalité nos institutions, etc. On voit le résultat.
Rachel Kahn.
Juste, moi je trouve que là, la prise de parole, elle est malsaine. C'est le mot parce que encore si la France était en première ligne des questions internationales, si on avait eu depuis 2 ans des résultats par rapport à Israël, par rapport au Hamas, par rapport au Hezbollah, ou la question du Venezuela et d'autres, la Russie, l'Ukraine, s'il y avait eu quelque chose d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue même stratégique, et qu'on arrête en fait cette mollesse diplomatique, qu'on arrête la lâcheté, je veux bien admettre. Mais là, en fait, que ce soit le chantage pour adopter la motion, alors même qu'on sait très bien que la France est commentatrice, ça pose un problème.
André Vanini, je vous garde pour la fin.
Je voudrais revenir sur ce que disait Vincent Trémollet de Villers. Donc vous pensez qu'on va plutôt vers des ordonnances que vers le 49-3 ?
C'est une des hypothèses, oui. Je crois. Et c'est quand même ce que l'Élysée a l'air de souhaiter depuis quelques jours. Donc je ne sais pas si cette hypothèse aboutira, mais c'est une des hypothèses, et c'est une des hypothèses qui disjoint le sort de Sébastien Lecornu de celui d'Emmanuel Macron.
Oui, oui.
Donc à partir de là, la stabilité peut être maintenue, la fameuse stabilité qui est l'objectif premier via les ordonnances, ce qui permet à la France d'avoir un budget. Ensuite, Sébastien Lecornu reste Premier ministre jusqu'au municipal démissionnaire, et puis après, on change de Premier ministre pour finir le quinquennat. C'est un scénario, je ne dis pas que c'est celui-là qui s'imposera, mais c'est évidemment un scénario qui existe et qui fait que la montée en pression de Sébastien Lecornu, mais qui a commencé la semaine dernière, quand il a évoqué déjà la dissolution en disant censure égale dissolution, ça voulait. En fait, il y a un scénario où censure n'égale pas dissolution. Ouais, censure égale changement de Premier ministre.
C'est même le scénario que tout le monde privilégie. Dernier mot,
ça change
Gauthier.
Quand même énormément de discours sur le 49-3. Il était totalement exclu. Désormais, vous avez plein de ministres en interview le matin qui vous disent non, rien n'est exclu par définition. Le 49-3 est souhaité par François Hollande, qui a quand même une influence dans le groupe socialiste, en disant que c'est la voie pour faire adopter le budget. Donc, les socialistes et les républicains n'ont pas censuré aujourd'hui, ils n'ont pas censuré hier. Je ne les vois pas censurer demain, car ils ont juste une trouille, c'est de perdre leur siège. Donc, si Sébastien Lecornu renie sa promesse promesse qu'il avait faite au moment où il entre à Matignon et qu'il actionne le 49-3, je crois qu'il n'est absolument pas censuré, que le budget passe et qu'on va vers les municipales et qu'il peut rester, pourquoi pas jusqu'en 2027. 2027.
C'est une possibilité, mais dans les risques qu'on mesure, j'imagine, hein, si on essaye un peu de se mettre dans l'état d'esprit du président de la République, le 49-3, il y en a plusieurs. Donc c'est quand même exposer le gouvernement et le budget à 4 ou 5 motions de censure. Là,
oui, parce qu'il y a un vote sur les recettes,
voilà,
les dépenses.
Les ordonnances, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite et de se montrer de la part du président de la République ingrat vis-à-vis de celui qui lui a permis de traverser cette période difficile. Mais l'ingratitude des princes, c'est aussi vieux que la politique.
Exactement. Petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question du Groenland, parce que Donald Trump précise de plus en plus ses desiderata des 200 ans du Figaro, et de Nicolas Sarkozy qui était hier soir à la grande soirée au Grand Palais et qui s'exprime cette semaine dans le JD News. A tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Penny Lane, l'outil compta, facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Mais attention, dès le 1er septembre 2026, fini les factures papier ou envoyées avec outils non homologués. Toutes les entreprises devront passer à la facture électronique. Heureusement, avec Penny Lane, vous êtes déjà prêt pour la réforme de la facturation électronique. Penny Lane, l'outil recommandé par des milliers d'experts comptables qui réunit compta, facturation et compte pro. Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 € pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essential SCE 65-9 hors option selon le tarif 2229-02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à novembre 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
CNews et Europe 1.
Ne bougez pas, nos débats reprennent dans un instant dans Punchline. A tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 € par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, motion hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 €. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pensez à covoiturer.
Kia, du mouvement via l'inspiration.
Mieux que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. Le lave-linge Indesit 8 kg, 1400 tours, 5 cycles rapides est à 299,99 € au lieu de 399,99 €. 60 € d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Solde du 7 janvier au 3 février.
MDA, électroménager, literie, cuisine, des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Ouh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6 000 € d'avantages clients sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1 000 € de prime reprise déduite et 5 000 € de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, ça vaut le coup. La semaine XXL chez Lidl, ça vaut le coup. La semaine XXL chez Lidl sur plus de 60 produits, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, cette semaine, profitez de réductions XXL chez Lidl, comme le kilo de gnocchi à 1,49€ au lieu de 1,99€ avec Lidl Plus, moins 25%. Lidl, ça vaut le coup. Transformé en Italie, offre valable jusqu'au 14 janvier. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamique LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3 990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Punchline sur CNews et Europe 1.
18h-19h, Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit mot du Groenland, parce que cette question quand même interpelle les Européens, même les Français qui ne connaissent pas forcément cette contrée magnifique mais glacée. Donald Trump a réitéré ses menaces. Il veut absolument obtenir cette terre où il y a non seulement des minerais rares, mais aussi qui est un emplacement stratégique, dit-il, pour construire sa défense antimissile. Alors, il a été interrogé hier sur les propos du Premier ministre du Groenland qui s'appelle Monsieur Nielsen et qui dit qu'il préférerait rester avec le Danemark. Écoutez la réponse de Donald Trump qui a dit qu'il ne sait même pas qui est le Premier ministre du Groenland.
Le Premier ministre du Groenland a déclaré aujourd'hui « Nous préférons rester avec le Danemark ».
Qui a dit cela ?
Le Premier ministre du Groenland.
Eh bien, c'est leur problème. C'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien de lui. Mais ça va être un gros problème pour lui.
Bon, c'est la politique du gros bras quand même, des gros bras, Gauthier Lebret.
C'est du Trump, hein. Voilà, on est désormais habitué. La question, c'est comment tout cela va se terminer. Deal, rachat du Groenland, les Danois ne veulent pas en entendre parler. Et il n'y a pas un jour qui passe désormais sans que Trump nous parle du Groenland. Les choses se sont considérablement accélérées depuis son intervention au Venezuela, qui est un exemple de ce qu'il peut faire. Mm-hmm. Qui est un message envoyé à l'Amérique latine, certes, à Cuba, à la Colombie. D'ailleurs, le président colombien s'est considérablement calmé contre Trump. Au début, il disait « je vais prendre les armes s'il y a des Américains qui débarquent ». Finalement, il a pris son téléphone et il a pris un téléphone pour appeler le président Trump et pour se mettre plutôt ventre à terre. Cuba est en train de négocier également. Et donc, il y a la question du Groenland, qui est une question qui nous intéresse évidemment, puisque c'est l'OTAN, puisque c'est le Danemark, donc c'est l'Union européenne. Ça change considérablement les choses, mais j'ai entendu une explication très intéressante hier pour la première fois qui, me semble-t-il, n'avait jamais été faite.
Pierre de Villiers ?
Par le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major, qui dit, dans la zone, il y a un risque que la Chine et la Russie s'implantent. Et moi, je préfère que ce soit les Américains pour nos intérêts européens que les Chinois ou les Russes, avec qui on est nettement moins bien. C'est un euphémisme. Donc j'ai trouvé que cette explication était intéressante. Comment tout cela va se terminer ? C'est évidemment pas moi qui va pouvoir répondre à cette question.
On écoute juste Pierre de Villiers et puis je vous passe la parole pour savoir ce que vous en pensez sur le Groenland.
Un pays qui attaque un autre pays de l'OTAN, on déclenche l'article 5 et tous les autres pays sont chargés de protéger celui qui est menacé. Donc ça voudrait dire que on déclencherait l'article 5 face aux États-Unis qui fournissent plus de 50% des crédits de l'OTAN et qui, l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc c'est impossible. Deuxième remarque, je ne vois pas l'intérêt pour le président Trump de faire une action militaire là où il pourrait arriver sans difficulté majeure. Il a déjà une base. Je ne vois pas qu'il y ait des troupes suffisamment costauds pour résister à une quelconque arrivée, donc il va chercher à dealer. Là, on est dans la phase de deal. C'est un dealer professionnel, rapport de force. Donc, et la troisième remarque, c'est que, quitte à ce que ce pays soit contrôlé par quelqu'un, je préfère à titre personnel que ce soit les États-Unis plutôt que la Russie ou la Chine.
Qui est d'accord avec le général de Villiers, Vincent Trémollet, Geoffroy, Donald Trump? Oui, merci.
Mais ce que dit le général de Villiers est tout à fait éclairant et intéressant. Alors il y a juste une chose qu'on ne comprend pas, c'est quand il dit que de toute façon, avec le Danemark et le Groenland, l'hégémonie américaine pourrait s'installer de façon pacifique et assez facile. Parce qu'on n'est pas dans le cas du Venezuela, qui est un pays hostile, avec un régime chaviste, antagoniste avec les États-Unis. Le Danemark est un pays qui s'est mis sous la tutelle américaine depuis très longtemps. Donc,
il achète son équipement militaire aux États-Unis.
Voilà, donc il pourrait très facilement installer et développer sa domination contre la Chine et la Russie. Donc il y a une hypothèse, et on verra si la suite nous dit si elle est vraie ou pas, c'est que Trump ne veut plus seulement que l'hégémonie américaine s'exprime de façon diffuse à travers l'économie, à travers le cinéma, mais de façon territoriale. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut, comme au XIXe siècle, comme les chefs d'État du XIXe siècle, étendre le territoire américain des frontières plus larges qu'autrefois. Peut-être c'est ça qu'il a dans la tête. Après, c'est quand même assez difficile à faire. Il y a un certain nombre d'obstacles. Si on est dans le début d'un deal, en général, il commence quand même par les extrémités les plus extravagantes et il arrive... Alors, c'est difficile de faire de la trumpologie, mais il arrive parfois qu'il y ait de la rationalité qui retombe à des choses plus intelligibles.
Rachel Gann, là-dessus, sur le Groenland, un tout petit mot.
Non, mais je trouve que c'est assez juste, André, en fait, ce que vous disiez sur le cinéma. En fait, je trouve que Trump, c'est le symbole de la conjugaison entre le soft power cinéma, chansons américaines, Coca-Cola, etc., et le hard power qui est vraiment la préemption de certaines terres, en réalité. Et je vois à quel point on ne parle pas du tout le même langage, c'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui nous disait qu'il fallait être vent debout contre l'impérialisme, la Chine, la Russie, et les États-Unis. J'attends la proposition de la France.
Pas beaucoup de propositions pour l'instant. Si, on va mettre un consulat à partir du 6 février au Groenland. Waouh, ils vont avoir peur, les Américains. André.
Non, mais moi, je suis d'accord avec Vincent Trémollet de Villers et avec le général de Villiers, pour une fois. Je ne vois pas pourquoi Trump aurait besoin d'aller conquérir militairement le Groenland, puisqu'il y a déjà une base américaine, que le Danemark est sans doute le pays d'Europe le plus soumis aux États-Unis sur le plan politique et diplomatique. Donc, il lui suffirait, entre guillemets, de mettre des troupes américaines et le Danemark n'y verrait pas d'inconvénient. Je voudrais retenir un argument qu'a utilisé Trump il y a deux jours, avec la finesse qui le caractérise. Il a dit le Groenland est une colonie danoise. C'est pas parce que les Danois sont arrivés il y a 500 ans avec des bateaux qu'ils sont propriétaires du Groenland. On peut dire la même chose des États-Unis. Les Indiens d'Amérique sont propriétaires des États-Unis plus que les Européens dont est issu M. Trump.
Mais il en reste assez peu, malheureusement. Ouais. Jean-Michel, dernier mot là-dessus, on avance après.
Moi, ce qui me surprend un peu, c'est l'attitude un peu dérisoire d'Emmanuel Macron, annoncer qu'on va mettre un consulat, c'est totalement ridicule. Il a eu des déclarations un peu martiales au Conseil des ministres aujourd'hui. Quand on voit l'efficacité de la France à faire adopter un budget militaire, un budget en général et un budget militaire en particulier, c'est vrai qu'il fait pas peur à grand monde. Et quand on regarde un petit peu les performances de la France en Ukraine, on se rend compte qu'on a été un petit contributeur, hein, puisqu'en fait, on n'a pas dépensé plus que les Suédois ou que les Néerlandais dans le soutien à l'Ukraine. Donc je pense que Donald Trump s'est beaucoup moqué d'Emmanuel Macron et je pense qu'il va continuer.
Rachel Kahn, un dernier mot.
Oui, je trouve que la doctrine Monroe, on en a beaucoup parlé en fait, c'est le fait que les États-Unis pensent que sur l'ensemble du continent américain, ils sont chez eux. Et je trouve que le silence de la France, une nouvelle fois, sur la Guyane et les dom-toms, est criant.
Absolument, vous avez raison. On parle des 200 ans du Figaro, Vincent Trémollet de Villers. Oui. Hier, c'est la grande soirée au Grand Palais, à Paris, avec nombreuses personnalités politiques. Il y avait absolument tout le personnel politique, à part quelques personnalités de gauche qui vous ont fait défaut.
Il y a des personnalités politiques qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir, qui ont sûrement de très bonnes excuses, mais oui, le spectre était quand même très très bien représenté. Il y avait le monde des affaires, il y avait les ambassades de la diplomatie, il y avait l'armée, il y avait les artistes, il y avait les écrivains, et il y avait tout ça pour entendre et regarder Fabrice Lucchini qui a montré à la fois le talent, l'impertinence et la liberté de Beaumarchais, le père de Figaro, qui a donné à notre journal ce nom. Donc il y avait un tour d'esprit qui ressemble à ce qu'on essaye de faire et à ce qu'on essaye de faire dans le journal et ce qu'on fait de très bien et ça nous oblige. Quand on travaille sur un journal qui a 200 ans, c'est assez impressionnant. Oui. En fait, on se sent tout petit et on se dit qu'on est obligé d'essayer de se hisser, on n'arrivera pas au même niveau, mais en tout cas de perpétuer ce qui a été fait par les prédécesseurs, parce que les signatures qui ont fait le Figaro depuis sa création il y a 200 ans, c'est simplement dingue. J'ai trouvé un numéro 1855 où il y a un poème de Victor Hugo, Les Bonnes Feuilles de Victor Hugo.
Victor Hugo écrivait dans
Le Figaro.
Ils sont
à la une du Figaro, bon ça...
Et là on a, je le dis à nos auditeurs, la une du jour de la mort de Gaulle, l'immense émotion à travers le monde après la mort du général de Gaulle.
Et puis alors une grande exposition, les auditeurs et les spectateurs peuvent y aller, il faut simplement s'inscrire, c'est gratuit. Il y a une grande exposition dans laquelle on voit les unes, on voit aussi Le Figaro dans la culture populaire, dans les films. Figaro est très présent dans les films. Ça peut être d'accord. Dans Mes meilleurs copains, Nanette, Le Figaro nous insulte, comme dans les films avec Trintignant, les films très années 70, années 80. Il y a les chansons de Renaud, il y a Jean Ferrat qui chante contre Jean d'Ormesson. Il y a tout cet aspect-là de culture plus populaire. Et puis sinon, il y a les heures plus graves du Figaro et notamment l'attitude prophétique du journal pendant l'affaire Dreyfus, puisque le journal était très très assassin avec l'œuvre romanesque de Zola et a pourtant demandé à Zola de commencer à lancer une campagne sur l'innocence de Dreyfus. Et le Figaro était le premier journal qui a vraiment remis en cause ce jugement et qui a publié beaucoup d'interventions dans ce sens-là. Bon, le grand J'accuse d'Émile Zola est paru dans l'Aurore, mais tous les textes qui ont précédé ce J'accuse ont été publiés dans le Figaro. Donc il y a toute cette dimension historique, une dimension plus légère, les grandes figures Mauriac, Aron et Jean d'Ormesson, qui a incarné, qui a été seulement directeur 3 ans, mais les gens pensent qu'il a été toute sa vie et qu'il est, il incarne physiquement presque le Figaro. Donc on peut retrouver tout ça là-bas. Il y a des tables rondes, il y aura un concert demain de Patrick Bruel dans l'après-midi. Il y aura Christophe Barbier qui va jouer un spectacle sur Offenbach et Villemessant, l'un des fondateurs du Figaro. Enfin, voilà, c'est un festival. On essaye de que ce soit à la fois agréable, intéressant, nourrissant, intelligent.
André Vanini, le Figaro, vous le lisez tous les jours ou pas?
Je lis tous les jours le Figaro.
Vous commencez par quelle page?
Je commence par la une.
Par le début,
l'éditorial
c'est bien.
De Vincent Trémollet de Villers. Je lis les pages internationales avec beaucoup d'intérêt. Les pages culture, le Figaro littéraire, le jeudi, bien sûr.
Pages médias aussi.
Comment?
Les pages médias, les ça pages nous intéresse.
Et j'ai découvert d'ailleurs, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans le Figaro depuis quelques jours sur les 200 ans, j'ai découvert que vous aviez été à l'avant-poste de l'affaire Dreyfus. Vous avez
vraiment été les premiers.
Ah oui, j'ai découvert ça.
On a vraiment été les premiers. Et on a été à l'avant-poste. De beaucoup de choses, en fait. Hippolyte de Villemessant, qui est l'homme qui a fait du Figaro un quotidien, a inventé les formes de presse qu'on connaît aujourd'hui. Il a même inventé les pages parfumées. Il a inventé les
pages
Cotille,
féminines. François Cotille,
Donc c'est... Non, ce plan, c'est vraiment très, très intéressant. C'est très impressionnant. Oui. Parce que les journaux vivent et meurent, en général, plus vite que ceux qui... Il n'y en a qu'un qui a survécu 2 siècles en France, c'est le nôtre. Donc, voilà, c'est une petite histoire. C'est une... L'histoire du Figaro traverse et croise
c'est une grande histoire
de France.
Bien sûr.
Et permet de la suivre de façon plaisante, puisqu'un quotidien doit quand même exercer une attraction pour ceux qui le lisent.
Absolument. Geoffroy, un tout petit mot sur le Figaro? Jean-Michel, je sais que vous y avez travaillé.
Il y a la litanie des rubriques citées par André, la rubrique Opinion. Et je me souviens qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez lancé le Figaro Vox. Oui. Et le Figaro Vox est devenu, en fait, c'était presque...
La tutelle de Jean-Michel Salvatore.
Et en fait, à l'époque, ça n'existait quasiment pas, un endroit où on pouvait entendre des voix qu'on n'entendait pas forcément, avec une qualité incroyable. Et en fait, ça a énormément contribué à vivifier le débat d'idées, donc les pages d'opinion du Figaro aujourd'hui sont le reflet de ça.
Et elles sont très ouvertes parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être publié plusieurs fois dans les pages d'opinion du Figaro.
Un dernier mot, Jean-Michel, vous qui avez travaillé au Figaro 10 ans.
J'ai travaillé 10 ans, j'occupais le poste de Vincent. Je reprendrai un mot de d'Ormesson, c'est un journal épatant.
J'adore ce mot.
Qui s'intéresse à tout. Donc ça, c'est quand même quand on dirige un journal comme ça, c'est à la fois exigeant et intimidant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'amour de la langue, parce que ça reste. Il y a l'amour de la langue, du texte bien écrit, que ce soit un portrait, un reportage, un compte rendu d'audience, la belle langue. Et puis le débat d'idées, ce que disait d'ailleurs ce matin dans son édito sur Europe, Vincent, l'amour des idées, l'amour du débat et l'amour de la conversation.
Il y a le grand reportage aussi. On a
Dernier mot, Vincent.
Prix Albert Londres au Figaro, Margot Benn étant la dernière.
La récompense pour les journalistes.
Voilà,
pour ceux qui ne le sauraient pas.
Et le reportage littéraire, la langue dont parlait Jean-Michel, est aussi une des caractéristiques du Figaro qu'on essaye de développer.
Vive le Figaro.
Et ben merci.
Et on est très heureux de vous avoir tous les matins sur Antenne d'Europe 1, mon cher Vincent, avec Alexis
Brézé. Partagez avec Alexis Brézé.
Absolument, avec Alexis Brézé. Vous voyez, je viens de le dire. Merci à vous. On fait une petite pause dans un instant. C'est Jean-Pierre Raffarin qui est notre invité dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va l'interroger sur les questions internationales et la situation aussi de notre pays. À tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
Bonjour. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe
1. La radio libre.
On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 € pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Profitez de 50% de remise fidélité gagnotée sur votre carte club Carrefour sur le deuxième fromage à raclette en tranche Carrefour. Et c'est valable sur tous les fromages à raclette en tranche Carrefour. Et c'est jusqu'au 25 janvier chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix.
Hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 € par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Pensez à covoiturer.
IKEA. Tu peux me sortir le turbo du four?
Chant. Prêt à partir en salle, chef?
Mais qu'est-ce qui te prend?
On dresse l'assiette, chef, et on envoie, chef.
Jusqu'au 15 février chez IKEA, pour l'achat d'une cuisine méthode de 2 000 € minimum, recevez 10% de sa valeur en bon d'achat avec la carte gratuite IKEA Family. Hors électroménager et services éventuels, voir conditions sur IKEA.fr.
CNews et Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats.
CNews et Europe 1.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant? DS Automobile présente DS3 DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355 € par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pensez à covoiturer.
Bureau Vallée, t'as fini la liste pour Bureau Vallée? J'y vais.
T'as besoin? Ils livrent.
Ah oui, top.
Fourniture de bureau, papeterie, mobilier, informatique ou cartouche d'encre, c'est Bureau Vallée.
Envie de marque, de prix bas toute l'année, de service pro et d'un vrai accompagnement, c'est encore Bureau Vallée.
Bureau Vallée, 320 magasins partout en France, des prix bas. Et en plus, c'est la meilleure enseigne de papeterie, fourniture de bureau 2025 et 2026.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Palmarès Capital selon enquête Statista. Détails sur bureau-vallée.fr.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le 3e est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes, of course.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pensez à covoiturer.
18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline.
18h38, on est de retour en direct sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel ce soir, Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir à vous.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Et tous nos voeux, évidemment. Vous êtes ancien Premier ministre. L'actualité est pressante. Nous sommes avec André Valigny et Rachel Kahn qui vont vous interroger avec moi. Actualité internationale pesante. À l'instant, on apprend, Jean-Pierre Raffarin, que l'Iran est prêt à riposter de manière décisive à Israël et aux États-Unis si par ailleurs, une action militaire était lancée par les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les États-Unis lancent des frappes contre l'Iran?
Je crois que c'est assez probable maintenant. Je pense que la violence est en train de dépasser les niveaux acceptables, même si la violence n'est jamais acceptable.
La violence contre les manifestants, la répression, c'est ça.
La répression, et donc je crois qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis vont être obligés d'intervenir. Et j'espère que l'Union européenne s'engagera un peu plus qu'elle ne s'engage actuellement.
Vous la trouvez faible, mollassonne, l'Europe ?
Je trouve qu'on n'a pas vraiment, compris l'enjeu qui est très important et que les États-Unis vont comprendre, car de toute façon, les États-Unis et ce à quoi ils pensent, c'est à l'avenir de l'Iran. Ils veulent se positionner sur l'avenir de l'Iran. Ils pensent considérer que l'Iran changera de régime à un moment ou à un autre, et donc ils veulent être en place pour quand les choses arriveront. Mais nous avons quand même une image en Iran, nous, Européens, à plusieurs pays, qui est l'image de la démocratie, qui est l'image de la tolérance, qui est l'image du respect. Et je pense qu'il faut faire entendre cette voix.
3428 manifestants morts, a priori, selon certains bilans d'ONG.
Il y a des bilans plus élevés.
Sans doute des bilans plus élevés. On a du mal à vérifier, évidemment, parce que Internet est coupé. Elle est nécessaire, cette action militaire ? Vous la réclamez ce soir, Jean-Pierre Raffarin ?
Non, je ne réclame jamais d'action militaire, mais je réclame la fin de la répression. Mais je dis que si la répression continue, il va de soi qu'elle va à un moment, elle est inacceptable. Donc, je ne sais pas quel stade les Américains décideront que l'inacceptable est franchi. Mais on va y approcher sans doute, parce que je vois qu'il y a des gens qui annoncent 3500, d'autres qui annoncent 12000, quel que soit le chiffre, on est maintenant déjà dans l'horreur. Donc, il y a un moment où les choses seront inacceptables.
Mais que peut faire l'Union européenne ? Alors, André Vallini vous disait pendant la coupure pub, mais que peut faire l'Union européenne ? Les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, André Vallini ? Ils sont inexistants. Oui. Là, Donald Trump parle à Benjamin Netanyahu pour cette action.
Oui, j'interrogeais Monsieur le Premier ministre sur la question de savoir comment l'Europe peut-elle agir au plan diplomatique, voire même militaire, stratégique en tout cas, de meilleure façon qu'elle ne le fait aujourd'hui. Pas forcément l'Union européenne, mais l'Europe en tant que continent, avec notamment les Anglais, les Allemands, les Polonais.
Moi, je pense, cher collègue sénateur, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui à l'Europe, c'est un leadership. Au fond, on voit bien que... Qu'est-ce que c'est que le leadership ? C'est l'incarnation d'une complexité. Et on a besoin que l'Europe soit incarnée. Et ce n'est pas Mme von der Leyen qui pourra porter ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'elle est issue de la fonction publique, elle n'est pas issue de la démocratie fondamentale et de la représentation des nations.
Mais elle s'arroge ce droit. Hein.
Elle s'arroge ce droit, et je pense qu'elle dépasse aujourd'hui ses responsabilités. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où le droit recule, et c'est la force qui avance, et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes le seul continent où l'économie et la politique ne sont pas dans la même main. Le marché et la monnaie sont entre les mains de Bruxelles. La politique, les nations, sont dans les mains des différents pays. Le leadership, il ne peut venir que des nations. Donc, je pense qu'il faut trouver la voie du leadership. Il y a plusieurs chemins possibles. Il y a d'abord le franco-allemand, de se mettre d'accord sur le franco-allemand. On pourrait imaginer aujourd'hui un communiqué commun France-Allemagne sur l'Iran, par exemple. Tout comme on pourrait avoir une politique commune sur la Chine, ou tout comme on pourrait avoir une politique commune sur l'Afrique. Ça, c'est du franco-allemand. On pourrait aussi imaginer d'essayer de reconstruire une passerelle avec les Anglais. Car en fait, les Anglais, parce qu'il y a une menace de guerre, reviennent avec la préoccupation du continent et prennent leur distance avec les États-Unis. Sur la géopolitique, les Anglais seront toujours d'accord avec les Américains. Sur le continent, ils ont peur de la guerre avec la Russie, ils ont plus peur d'une certaine manière que nous. Et nos deux armées sont compatibles, travaillent bien ensemble. Les accords de Lancaster House sont une force. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait être bâti, un cercle. Et si les trois aujourd'hui prenaient la parole, les trois pèserait lourd et pourrait entraîner. On peut aussi revenir aux fondateurs de l'Europe. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à comment doter, dans ce monde où les régimes autoritaires font que le dictateur est un leader. Ce n'est pas le leadership que nous voulons des leaderships démocratiques, des leaderships d'harmonie, des leaderships de partage, mais le dictateur est un leader, et le leader, il incarne un pays. Et donc, Monsieur Poutine, Monsieur Xi Jinping, et d'une certaine manière, Monsieur Trump...
Vous mettez Trump dans la catégorie des dictateurs, Jean-Pierre Raffarin, il a été élu démocratiquement.
Je ne le mets pas dans la catégorie des dictateurs, je dis qu'il a un certain nombre de comportements...
autoritaires.
Qui sont très autoritaires, et je trouve qu'aujourd'hui, il fait partie des chefs d'État qui... concentre l'expression du pays complètement. Son attitude incroyable, qui pour moi est assez inacceptable, qui est de signer des décrets tous les jours et à haute dose, pour faire croire que c'est lui qui décide de tout. Dans un pays où il y a un Parlement, où on, c'est pas parce que le président a signé que le texte... Et d'ailleurs, on voit que la justice revient sur un certain nombre de décisions.
Sur le droit de douane, notamment.
Voilà, sur le droit de douane, notamment. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie américaine est bafouée par M. Trump. C'est mon avis. Et je pense que l'Europe doit avoir un leadership et sans doute que les grands pays, et notamment France-Allemagne, doivent réfléchir à ça pour essayer de construire une prise de parole commune.
Il y a des mid-terms bientôt aux États-Unis. On verra si la démocratie, comme vous le dites, est bafouée par Donald Trump ou si, au contraire, les électeurs valident sa politique. Rachel Kahn, une question à Jean-Pierre Raffarin.
On a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et presque comme un slogan, le droit international. Quel regard vous portez sur ce droit international? Est-ce qu'il n'est pas devenu caduc, selon vous?
Je crois qu'il est devenu caduc. Je pense que le droit international, ce sont les règles qui viennent des organisations internationales. Nos organisations internationales sont paralysées. L'ONU est bloquée par le droit de veto au Conseil de sécurité. L'OMC est bloquée par les Américains qui ne nomment pas leurs arbitres pour procéder aux différents arbitrages nécessaires. Et on voit que les États-Unis se retirent de l'UNESCO. Tout ce qui est la machine internationale née de la Seconde Guerre mondiale qui devait produire le droit est aujourd'hui complètement bloqué et paralysé. Et auquel cas, naturellement, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est les forces et c'est les leaders individuels qui se poussent les uns les autres. Mais ce que je trouve dangereux, c'est que ces questions de régime autoritaire, ils évoluent tous de la même manière, c'est-à-dire qu'ils évoluent vers la dictature. On a rarement vu le chemin inverse, c'est-à-dire un dictateur qui devient démocrate. En revanche, on voit des... Moi, j'ai vu Poutine évoluer. Avec Jacques Chirac, nous avions des relations avec Poutine, qui étaient des relations relativement...
Pareil apaisées. Pour la Chine ou pas?
Eh bien, je pense aussi que le régime est de plus en plus
autoritaire. C'est une dictature.
Et donc, dans ces logiques-là de dérive autoritaire, il faut qu'on soit très, très inquiétant, parce que je vois, par exemple, que la Chine, qui était assez ouverte pendant un certain temps, qui a été dans la direction de l'ouverture, aujourd'hui, elle défend son client et son fournisseur, pourtant qu'est l'Iran. Donc on les voit aujourd'hui, ces pays autoritaires, être de plus en plus séducteurs, y compris vis-à-vis des démocraties. On a vu M. Lula aller le 9 mai à Moscou avec M. Poutine, et M. Modi, le Premier ministre d'Inde, aller avec M. Xi Jinping à Shanghai. Donc ceux qui sont nos grandes démocraties, ils sont en train d'être gagnés un peu par les régimes autoritaires. Et ça, c'est parce qu'on n'a plus d'organisation internationale crédible. Donc c'est vrai, le droit recule aujourd'hui, et nous sommes dans une situation très préoccupante, parce que c'est la force qui avance.
Un tout petit mot du Groenland, parce que Donald Trump réitère qu'il veut acquérir à tout prix ce territoire. Ça nous concerne, évidemment, parce qu'il s'agit de personnes qui ont des passeports danois. On va juste écouter ce qu'on a dit Sébastien Lecornu. Il dit qu'il ne faut pas sous-estimer ce que dit Donald Trump. On écoute le Premier ministre.
Il est clair que les intentions de l'administration Trump sont sérieuses et qu'elles doivent désormais être prises très au sérieux et que nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. Pour être très clair, au-delà des mots, cela positionne aussi évidemment la diplomatie française dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland, et que pour rien au monde, nous voulons voir la remise en cause de la souveraineté des autres territoires, car nous n'accepterions absolument pas la remise en question de la souveraineté française sur nos propres territoires.
Vous envisagez, Jean-Pierre Raffarin, un affrontement entre alliés de l'OTAN sur le Groenland, ou est-ce que pas du tout?
Je pense que ce sera évité, mais je pense que ce sera quand même difficile, que la tentation est assez forte. Mais ce que je remarque, c'est que ces grandes puissances, aujourd'hui, elles cherchent à nous diviser. Et c'est vrai que sur l'opinion publique européenne, beaucoup de gens vont dire « on va quand même pas faire la guerre mondiale pour le Groenland, qui est loin de chez nous, qui est tout ça ». Donc il va y avoir ceux qui vont tenter de se coucher, et puis il y a ceux qui vont résister, comme nous, comme la politique de la France, qui est de dire, au fond, c'est l'Europe qui est attaquée, c'est le Groenland. D'accord, c'est loin, d'accord, mais c'est l'Europe, et c'est l'Europe qui est attaquée. Et si on accepte ça, on acceptera le pire. Donc il faut naturellement résister. J'approuve la décision de la diplomatie française de mettre un consulat, de renforcer la présence pour bien montrer...
C'est de la gesticulation, Jean-Pierre Raffarin.
C'est un signe politique important. Que des diplomates soient sur le terrain là-bas, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas ignorer la présence de diplomates dans la défense des droits. Et donc ça, je pense que c'est quand même important. Bien sûr, ce n'est pas une action militaire, mais il faut envoyer des signes de notre détermination. C'est un bon signe de détermination.
Un petit mot de la politique nationale, peut-être, André Valigny. Ce qui se passe au Parlement, nous, nos députés font des ronds dans l'eau avec des motions de censure, alors que le monde est à feu et à sang.
Non, la question maintenant est de savoir si le gouvernement va avoir recours aux ordonnances ou au 49-3, parce qu'il faut bien qu'on ait un budget. Et c'est là, il n'y a que deux solutions, hein, l'une ou l'autre.
Qu'est-ce que vous préconisez, Jean-Pierre Raffarin?
Moi, j'ai toujours préconisé le 49-3. Je ne comprends pas pourquoi on se prive d'un outil constitutionnel. Eh bien, le 49-3, il est fait pour ça. Et donc, il est fait. Et quand on dit que c'est une démonstration de force, ce n'est pas forcément une démonstration de force, parce qu'il suffit de faire une motion de censure, et s'il y a une majorité, on renverse le gouvernement. Et quand le gouvernement fait le 49-3, il sait qu'il s'expose à la motion de censure, et s'il y a une majorité contre le 49-3, qu'elle s'exprime par la motion de censure, et on change de gouvernement. Donc, tant qu'il n'y a pas de motion de censure votée, le gouvernement peut avancer. Donc il faut avoir le budget, et c'est le 49-3 qui est quand même la formule la plus acceptable, parce que c'est une formule constitutionnelle.
D'accord. Rachel Kahn, une question à Jean-Pierre Raffarin.
Non, parce que j'adore vous écouter, en fait, et je trouve qu'il manque tellement d'incarnation, justement, politique aujourd'hui. J'aurais adoré que vous puissiez vous représenter à la prochaine élection présidentielle.
Bon, ça, c'est une déclaration.
Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est agréable de vous écouter, d'avoir une ligne, une vision, vous avez un langage, etc. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur, tout simplement ?
Ça me fait mal au cœur, en effet, parce que, au fond, Emmanuel Macron, il avait promis quelque chose qu'il a fait, c'est-à-dire de renouveler la vie politique française. Et donc, il a mis une catégorie de gens complètement nouvelle au pouvoir, dans les assemblées. Si on fait le bilan 5 ans après, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt un échec. Car, au fond, on ne peut pas dire que le Parlement soit plus dense, plus compétent, plus renouvelé, plus créatif, plus généreux que les précédents. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a une stupidité qui est faite, qui est de priver le maire, qui est celui qui connaît les bonheurs des Français et les malheurs des Français,
du double mandat,
et de revenir fabriquer la loi. Interdire au maire d'être le fabricant de la loi, le cumul des mandats, c'était l'enracinement des élus. Et donc, qu'on plafonne les rémunérations, qu'on trouve un certain nombre de choses, je suis d'accord sur tout ça, mais de se dire que l'élu qui a l'épaisseur de la société, qui sait ce que c'est qu'un malheur, qui a été à apprendre à des parents qu'un enfant avait eu un accident la nuit, qui a fait ça, eh bien c'est quelqu'un qui a de la gravité au fond de lui-même. Même s'il a fait les mariages, même s'il a fait des arbres de Noël, même s'il partage les joies aussi, il y a de la gravité dans la responsabilité locale. Et il ne faut de la gravité au niveau de l'État. Donc des gens qui ont une épaisseur. Vous savez, quand vous arrivez Premier ministre, ça vous change, hein. Moi, je suis arrivé, je suis allé accueillir les gens qui avaient été en Inde victimes d'un attentat. J'ai accueilli des corps, j'ai accueilli des pères malades. Dès le début, vous prenez le poids de la gravité. Vous vous rendez compte que c'est la politique, ce n'est pas de la communication. Hein. Il y a une part de communication, bien sûr, mais au total, c'est quand même de la gravité. Et là, on est en situation internationale extrêmement grave, et personne ne parle de la gravité de la situation. Mais personne ne parle non plus des bouleversements essentiels. Pensons, je sais que ça vous intéresse, mais qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va changer dans l'éducation ? L'éducation, c'était souvent un exercice de mémoire. Il fallait apprendre les fables de La Fontaine, il fallait tout ça. Là, aujourd'hui, la culture va être accessible. Oui. Mais il faut quand même avoir de la culture pour avoir du discernement, pour choisir. Donc comment on va enseigner demain avec l'IA ? Comment on va faire en sorte que les enfants participent à cette technologie
grand
et
débat,
en profitent ?
Grand débat.
Mmh. Hein, mais c'est quand même, c'est un travail. Mais est-ce que quelqu'un en parle ?
Et à travers ce prisme-là, Jean-Pierre Raffarin, que dites-vous à nos agriculteurs ? Parce que là, on parle du nouveau monde. Est-ce que eux, c'est l'ancien monde ? Est-ce qu'ils sont condamnés, nos agriculteurs ? Ils sont en colère, ils ont l'impression de les sacrifier sur l'autel de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Ils sont encore sur les barrages, ils manifestent.
Bon, moi je comprends toutes les inquiétudes et les douleurs des agriculteurs, et je pense notamment aux éleveurs, parce que ce sont surtout eux qui sont aujourd'hui en première ligne des difficultés. D'abord parce que c'est des gens qui travaillent toute l'année, ils n'ont pas de dimanche, ils n'ont pas de 35 heures, et donc ils ont un travail, puis un travail très difficile, parce que non seulement il y a ce lien affectif avec les bêtes, mais en plus il y a toutes ces procédures administratives qui leur prennent un temps fou. Donc c'est vraiment des gens qui sont secoués. Sur le Mercosur, je pense que Il faut vraiment, ou on prend le Mercosur et on fait un plan élevage, ou on ne prend pas le Mercosur, on se débrouille, mais prendre le Mercosur ça à côté,
on n'a pas le choix.
Soutenir l'élevage, il faut engager aujourd'hui un plan élevage pour venir en soutien aux éleveurs. Parce qu'on est dans une situation, vous savez, moi je suis un promeneur à pied en montagne l'été. Mm-hmm. C'est très clair, là où il n'y a plus de vaches, C'est de la jachère qui vient, c'est des buissons qui viennent. Et donc, on est en train d'abîmer toute notre nature quand il n'y a plus d'élevage, quand il n'y a plus de vaches qui viennent pour nettoyer un peu les territoires.
Donc, on va subventionner les éleveurs.
Moi, je pense qu'il faut les aider, mais notamment en allégeant une foule de contraintes.
Bien sûr.
En leur donnant un moratoire sur un certain nombre de contraintes pour les libérer un peu de leur travail. Et donc, il faut les aider. Et ça, je pense que c'est une responsabilité nationale. Il en va d'une population, mais il en va aussi des hectares et de territoires.
Et notre souveraineté peut-être aussi alimentaire, c'est pas un gros mot.
Aussi. Et puis de montrer à l'Europe aussi qu'on sait résister à un certain nombre de positions. Et donc je pense qu'il nous faut obtenir de l'Union européenne l'autorisation que la France puisse engager un plan ciblé sur l'élevage, parce que c'est quand même l'élevage la principale victime du Mercosur. Mais je vous ai déjà dit une fois, avec Jacques Chirac, on aurait eu un accord sur le Mercosur, je pense. Parce
différent.
Que, avec Chirac, il nous donnait toujours comme instruction aller aux réunions européennes avec un accord franco-allemand. Aujourd'hui, il y a deux dossiers. Un dossier Mercosur,
évidemment.
La France est contre, l'Allemagne est pour. Un dossier taxe sur le véhicule chinois. L'Allemagne est contre, la France est pour. Chirac aurait dit, avec Schröder, Mercosur, c'est l'agriculture, c'est la France. L'Allemagne s'aligne sur la France. L'automobile, c'est l'Allemagne. Et la France s'aligne sur l'Allemagne, sur l'automobile.
Et là, il n'y a pas ça.
Et c'est ça le vrai...
Parce qu'il n'y a pas de leader en Europe.
C'est ça la vraie négociation. C'est ça la vraie coalition. La coalition, ce n'est pas ajouter des trophées, c'est partager. Se dire, je te prends ça, mais tu me donnes ça et tout ça. Et on trouve un deal de partage.
Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir dans Punchline,
sur CNews
et sur Europe 1. Dans un instant, Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée, à demain.
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment 500. Toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159€ par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Portes ouvertes ce week-end. Pour 500 hybrides pop, LLD 49 mois, 40 000 km, apport 2 800€ sous condition de reprise. Reprise éco-Fiat de 500€ déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 31 janvier. Détaillez conditions sur fiat.fr. Fiat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Penny Lane, l'outil compta, facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Avec Penny Lane, je partage automatiquement tous mes documents et opérations avec mon expert comptable. Pratique pour recevoir ses conseils.
Avec Penny Lane, je pilote ma trésorerie en temps réel.
Avec Penny Lane, je crée mes devis et factures super facilement et je suis prête pour la réforme de la facture électronique.
Penny Lane, l'outil recommandé par des milliers d'experts comptables qui réunit compta, facturation et compte pro. Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
Toyota.
Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota EcoCross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota EcoCross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur Toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
C'est les soldes chez But et le souci avec nos offres jusqu'à moins 50% et le crédit gratuit, c'est que vous risquez de voir les choses en grand.
Chérie, on peut plus traverser le salon.
Mais c'était les soldes.
But et votre maison bat plus fort.
Date selon arrêté préfectoral. Coût du crédit pris en charge par votre magasin et sous réserve d'acceptation. Conditions en magasin et sur But.fr.
Lexus. On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins. Qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX. Notre SUV compact hybride à partir de 299€ par mois, entretien inclus. Lexus LBX LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990€. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
En exclu, mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaire sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs ? Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Skoda. On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir,
de manger plus sainement ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end.
Skoda.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
En direct de chez Aldi avec Madame la Mandarine variété Clément Villa à 1,65€ le filet d'un kilo, on vous compare souvent avec la clémentine. Savourant amer.
Clémentine par-ci, clème par-là, j'en peux pulpe, moi. Mais je comprends qu'on nous compare. On est belle, bien juteuse, et on vient toutes les deux du Sud.
Eh ben, y a pas de pépin. Merci, Madame la Mandarine, à 1,65€ le filet d'un kilo de chez Aldi pour ce beau message de tolérance.
À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter. Aldi, la meilleure qualité à prix discount.
Offre valable jusqu'au samedi 17 janvier. Infos et origines sur aldi.fr.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leap Motor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Et cette série, dès 139€ par mois et sans apport. Pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh ! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leap Motor, lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360€ déduite pour une T03 neuve hors option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe 1 Soir avec pour sujet d'abord la dénatalité. Il y a en France plus de décès que de naissances. C'est la première fois depuis 1944, on vous le disait hier. Les causes sont-elles économiques? Bien sûr que non. On va s'intéresser là-dessus. Ensuite, la politique, bien sûr, avec le rejet des deux censures aujourd'hui, censure RN et LFI, ainsi que le procès des assistants des eurodéputés RN. Un beau livre tout à l'heure à 20h10, Foi de prof, signé à